Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, voici à nouveau réunis en cette journée sous la protection de Notre-Dame du Perpétuel Secours, puisque c'est sa messe que nous célébrons aujourd'hui pour une nouvelle ordination sacerdotale. Mes bien chers amis, je vous rappellerai cette parole de saint Paul en commençant ces quelques mots. Deus elegit nos in ipso ante constitutionem mundi ut essemus sancti. Dieu nous a élus en Jésus-Christ avant la constitution du monde pour que nous soyons saints. Et cette parole ne s'adresse pas seulement aux prêtres ou aux futurs prêtres. Elle s'adresse bien sûr à tous les fidèles, à tous ceux que Dieu a élus pour être saints in ipso en notre Seigneur Jésus-Christ. Ante constitutionem mundi. Depuis toute l'éternité, Dieu nous a choisis pour être saints, saints en Jésus-Christ. Voilà de quoi nous faire méditer. Voilà le chemin que nous devons suivre, notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous sanctifier. Et l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, la plus parfaite, de la sainteté que nous devons poursuivre tous les jours de notre vie, c'est l'image de la croix. En effet, toute la sainteté est résumée, est vécue dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En quoi consiste donc la sainteté, sinon en la détestation du péché et en l'amour de Dieu et du prochain? C'est le résumé de toute notre vie. Nous devons détester l'erreur et le péché et nous attacher à Dieu et servir notre prochain pour Dieu. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, sur sa croix, nous présente justement l'horreur du péché, la mort du péché. Mors mantua tunques, la mort est morte. Cette mort qu'a apporté le péché au monde, elle est morte par la croix, par la mort de Dieu. Voilà ce que nous apprend notre Seigneur. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le démon, il a vaincu le monde par sa croix. À nous aussi de détester le péché, de nous en éloigner le plus possible, de tout faire pour éviter de désobéir à Dieu, de nous en éloigner et de pratiquer la charité. Charité envers Dieu, charité envers le prochain. La croix aussi est l'expression la plus belle, la réalisation la plus grande, la plus sublime, la plus divine de l'amour pour Dieu. C'est le Fils de Dieu lui-même, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui s'offre à son Père sur la croix, qui par amour pour lui a subi cette mort indigne de Dieu à cause de nos péchés pour nous sauver. Et par là, en même temps, il manifestait un amour infini pour nous, pour son prochain. Y a-t-il une plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime? A dit notre Seigneur, et il l'a fait, il l'a réalisé. Et c'est pourquoi la croix est notre livre, le livre du chrétien, et à plus forte raison, le livre du prêtre. Vous qui désormais, mes chers amis, allez monter à l'autel tous les jours pour réactualiser le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, quelle leçon plus belle, plus profonde, plus concrète, plus émouvante que ce sacrifice de la croix, redevenu vivant sous vos yeux, et vous-même en étant l'acteur, instrument de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, vos lèvres remplaceront celles de notre Seigneur, votre parole sera celle de notre Seigneur Jésus-Christ, pour reproduire ce sacrifice de la croix et répandre ces bénédictions sur vous-même et sur tous ceux pour lesquels vous priez et pour tous ceux pour lesquels vous offrez le saint sacrifice de la messe. Amour de Dieu, vous le manifesterez par toute votre vie, comme notre Seigneur Jésus-Christ à la suite de notre Seigneur. Et l'amour du prochain, vous le manifesterez premièrement en lui donnant notre Seigneur Jésus-Christ, que vous pourrez porter dans vos mains consacrées. Vous donnerez Jésus aux âmes, Jésus crucifié, leur apprenant ainsi à détester le péché et à s'approcher de Dieu, à s'unir à Dieu. Y a-t-il une chose plus belle sur la terre que d'être prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ? Et avec la grâce du bon Dieu, vous le serez dans quelques instants. Vous pourrez à votre tour prononcer les paroles de la consécration et Dieu vous obéira. Sommes-nous dignes, mes chers amis, d'une grâce semblable? Combien nous devons vivre dans l'humilité, dans l'obéissance à Dieu, dans l'amour de Dieu, pour être moins indignes d'être le prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous voulons pratiquer la charité qui s'exprime particulièrement dans les commandements de Dieu, nous devons remarquer que les premiers commandements de Dieu sont les commandements qui s'adressent à Dieu, celles qui expriment l'amour de Dieu. Le catéchisme du Concile de Trente nous dit que les deux tables contenaient l'une, les trois premiers commandements qui regardent l'amour de Dieu, et la deuxième table exprimait les commandements envers le prochain, qui exprimait l'amour envers le prochain. Pourquoi cette distinction? Parce qu'il y a une distinction énorme entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le prochain. Dieu est Dieu. Dieu est notre Créateur. Et le premier commandement de Dieu est précisément celui-là. Tu adoreras Dieu. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Un seul Dieu. Et dans l'Écriture, il était dit, pour ces commandements du Décalogue, tu ne mettras pas d'autre Dieu que moi devant moi. Tu ne mettras pas devant moi d'autre Dieu, des dieux étrangers que moi. Et Dieu a le droit de le dire, et il est le seul à avoir le droit de le dire. Personne d'autre que lui ne peut dire à tous les anges, à tous les hommes, à toutes les créatures, vous ne mettrez pas devant moi d'autre Dieu que moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous ai créé. C'est moi qui vous ai conçu. C'est moi qui vous ai fait. Si vous vivez, c'est à cause de moi. Si vous avez une âme, c'est à cause de moi. Si vous pouvez manger aujourd'hui et vivre, c'est à cause de moi. C'est moi qui vous ai tout donné. Les biens naturels, les biens surnaturels, je vous ai tout donné. Vous n'aurez donc qu'un Dieu et vous l'adorerez. Quelle leçon, mes bien chers frères, aujourd'hui, combien il est utile de nous rappeler ce premier commandement, qui est celui qui domine toute notre vie et qui dominera toute notre vie éternelle. Adorer Dieu et n'adorer qu'un seul Dieu, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a fait, le Dieu qui nous supporte dans l'existence, sans lequel nous ne serions rien. Notre Seigneur l'a répété, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et en effet, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors soyons attachés à ces commandements de Dieu. Et particulièrement au premier commandement, qui nous oblige aussi à croire, à avoir la foi. Dieu nous l'a dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Il avait le droit de le dire. Il a le droit à l'obéissance de notre intelligence pour croire à sa parole, pour croire à ce qu'il nous révèle, pour croire à la voie qu'il a choisie pour notre rédemption, pour notre salut. Et il n'y en a qu'une, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est Dieu lui-même, crucifié sur le bois de la croix. Voilà la voie de notre salut, qu'il a choisie et qu'il avait le droit de choisir et que personne ne peut lui contester. Qui est comme Dieu? Qui discutera les voies de Dieu? Nous, pauvres créatures, de rien du tout, qu'un souffle abat, qui sommes comme l'herbe des champs, disent les psaumes. Aujourd'hui, ils sont en fleurs, demain, ils sont fauchés et mis dans le grenier. Que sommes-nous? Rien. Oserons-nous discuter à Dieu la voie qu'il a choisie pour nous sauver? Il a voulu la croix, nous devons le suivre et porter notre croix à sa suite et l'imiter dans sa croix par l'horreur du péché et par l'amour de Dieu jusqu'à notre sang, à donner notre vie pour Dieu et pour notre prochain, pour l'amour de Dieu. Grande leçon que nous avons besoin de nous rappeler aujourd'hui, qu'il y a des commandements qui s'adressent à Dieu. Il n'y a pas que les commandements qui dirigent notre vie et l'ordonnent vis-à-vis de notre prochain. Et les commandements vis-à-vis de Dieu sont le fondement même de notre amour pour le prochain. C'est par conséquent à ces commandements-là que nous devons nous attacher. Et c'est pourquoi il n'y a pas de péché plus grave que celui de déshonorer Dieu, d'enlever l'honneur de Dieu, de mépriser Dieu. Il n'y a pas de péché plus grave pour l'homme que d'oublier Dieu, que de vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est un mépris insensé. Et les psaumes le disent. Le bon Dieu regarde sur la terre. Si les hommes le recherchent, si les hommes pensent à lui, et il n'en trouve presque aucun. Est-ce que ce n'est pas la réalité encore aujourd'hui? Quels sont les hommes qui honorent Dieu comme Dieu doit être honoré par notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà la question que nous devons nous poser. Et nous-mêmes, vivons-nous ce premier commandement? Honorons-nous vraiment Dieu? Dieu fait-il partie de notre vie? Est-il toujours présent à nos esprits, à nos intelligences, dans tous les événements, dans toutes les décisions que nous avons à prendre, dans tous les choix que nous avons à faire? Est-ce que Dieu intervient? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ intervient? Il n'y a pas de plus grand péché que de s'éloigner de Dieu, de mépriser Dieu, d'oublier Dieu et d'être infidèle à Dieu. L'infidélité est le péché contre la foi. Et le péché contre la foi consiste précisément à s'éloigner de notre Seigneur Jésus-Christ et en particulier à mettre notre Seigneur Jésus-Christ au rang de tous les dieux. Je pense qu'il n'y a pas de péché plus grave que celui-là. Si notre Seigneur, si Jésus et si Dieu a dit aux fidèles de l'Ancien Testament, vous ne placerez pas devant moi des dieux étrangers, car je suis le seul Dieu que vous devez honorer. Que se passe-t-il aujourd'hui, mes bien chers frères? Sommes-nous aveugles? Sommes-nous sourds? Que s'est-il passé dans notre chère Église catholique pour qu'on en arrive à mettre les faux dieux, ces dieux étrangers, au rang de celui qui nous a créés? Celui qui est le maître de l'univers, qui aujourd'hui pourrait faire disparaître ces montagnes qui sont devant nous, comme un jeu de cartes. Nous le verrons bien à la fin des temps. Devant cette imposture, devant ces pasteurs qui perdent la foi et qui font perdre la foi, qui conduisent dans le chemin de l'apostasie, qui conduisent dans le chemin de l'infidélité. Que devons-nous faire? Quelle doit être notre conduite? Réaffirmer le premier commandement. Réaffirmer la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondement, dit saint Paul, que Jésus-Christ et Jésus crucifié. Pas d'autre fondement à notre vie, pas d'autre fondement à notre foi. Nous devons remettre Jésus-Christ à sa place, à la place d'honneur, dans nos familles, dans nos foyers, dans notre cœur, dans notre vie, dans notre cellule, partout. La croix de Jésus doit être présente. Partout, nous devons honorer celui qui nous a créés et qui est descendu, s'incarner, et vivre parmi nous pour nous sauver. Il n'y a pas d'autre Dieu. Combien de fois dans les psaumes, Dieu le répète, « Je suis le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Et il a raison. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui qui a fait le ciel et la terre. « Tu fais tu chez nous mettre terram. Perquem omnia factasson, par qui tout a été fait. » Qui peut douter de cela? Alors réaffirmons, au moment où précisément ces erreurs circulent, et malheureusement par nos pasteurs, eh bien, nous, fidèles, demeurons fidèles au commandement de Dieu, au premier commandement de Dieu, et à la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, nous réaffirmerons notre foi en Dieu, en un seul Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ, en le faisant régner partout, en restaurant son règne partout. Voilà la réponse que l'Église a toujours faite devant les erreurs. Quand les hérésies, les erreurs ont apparu, dans l'histoire de l'Église, qu'a fait l'Église? Elle a réuni un concile où, sinon, les papes eux-mêmes ont écrit des encycliques, des lettres publiques pour réaffirmer la vérité qui est contraire à cette erreur. Lorsqu'on a, au XVe siècle déjà, voulu affirmer que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas présent dans la Sainte Eucharistie, eh bien, l'Église a au contraire encouragé les processions du Saint-Sacrement, l'honneur rendu à l'Eucharistie. Des congrégations ont été fondées pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Des congrégations ont été fondées pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ nuit et jour dans la Sainte Eucharistie pour réaffirmer le dogme, la vérité, contre l'erreur. Eh bien, nous devons faire la même chose maintenant. Nous devons promettre à notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, de n'honorer que lui, et de ne pas en honorer d'autres, et de refuser tout honneur, tout respect, soi-disant respect, donné à des faux dieux, à ceux qui sont des inventions du diable, pour détourner les âmes de la foi et pour les entraîner en enfer. Ne craignons pas, donc, d'affirmer notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Que nos chapelles, et vous particulièrement, mes chers amis, qui allez maintenant être responsables de lieux de culte, où vous allez offrir le Saint Sacrifice de la Messe, que vos chapelles soient tout entières un acte de respect, d'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout rappelle la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, sa toute-puissance, l'honneur que nous lui devons, les actions de grâce que nous lui devons, et la demande de pardon de nos péchés que nous devons faire tous les jours. Et puis, vous ferez ce que font déjà vos aînés qui ont commencé dans diverses villes d'Europe et d'Amérique et d'ailleurs des processions du Saint-Sacrement pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ, pour remettre en honneur celui qui est notre Sauveur, notre Prêtre, notre Roi. Et dans toute la mesure du possible, vous ferez en sorte que notre Seigneur Jésus-Christ règne dans la société, contrairement à ces erreurs modernes qui voudraient que tous les États soient laïcs, c'est-à-dire sans notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle impiété! Chassez notre Seigneur Jésus-Christ de la société civile que notre Seigneur Jésus-Christ a créée. Ces sociétés sont créées par Dieu, comme la famille. La famille et la société sont des êtres moraux créés par Dieu. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas le droit d'y régner, alors que c'est lui qui les a faites? Nous ne devons pas avoir peur de lutter par tous les moyens contre l'athéisme, contre l'impiété, contre le laïcisme, contre le libéralisme, comme l'ont fait tous les papes, jusqu'au pape Pie XII. Soyons fils véritable de la Sainte Église catholique. Ne craignons rien, les persécutions, les mépris, toutes les paroles qui peuvent être adressées contre nous, parce que nous sommes des dignes fils de l'Église catholique, eh bien que tout cela ne nous fasse pas craindre, que nous n'ayons point peur. Dieu est avec nous, notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous, et la très sainte Vierge Marie en particulier. Aujourd'hui, nous fêtons donc Notre-Dame du Perpétuel Secours. Demandons-lui son secours à la très sainte Vierge Marie pour honorer son divin Fils comme elle désire qu'il soit honoré. Demandons-lui qu'elle vienne à nouveau sur la terre, qu'elle apparaisse à nous pour nous dire ce que nous devons faire, mais nous le savons, mais qu'elle nous encourage, qu'elle nous rende forts dans la persécution, dans l'ostracisme dont nous sommes l'objet partout, par nos pasteurs, qui devraient au contraire nous féliciter et nous aider dans le maintien de la foi catholique. Eh bien, puisque nous sommes des disciples de la croix, portons notre croix à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Portons-la à la suite de la très sainte Vierge Marie et des apôtres et de tous les martyrs. Ne craignons pas. Un jour, Dieu nous récompensera. Un jour viendra où la voix de Dieu se fera entendre. Et où les hommes reconnaîtront que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment le roi de l'humanité et le sauveur de l'humanité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers amis, mes bien chers frères, cette fête de la Pentecôte nous rappelle l'anniversaire de la fondation de l'Église. Quel anniversaire! Quelle date mémorable! Tout ce qui avait précédé la fête de la Pentecôte dans l'histoire religieuse de l'humanité préparait cette journée extraordinaire de la descente du Saint-Esprit sur ceux qui désormais devaient prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la venue de Dieu sur la terre, de sa mort sur la croix, de sa résurrection, de son ascension. Et en effet, en ce jour, entourant la Vierge Marie, qui, elle, n'avait pas besoin de la Pentecôte, elle était déjà remplie du Saint-Esprit, et c'est même par elle que la grâce du Saint-Esprit va être donnée à ceux qui l'entourent. Il n'y avait pas seulement que les apôtres, il y avait aussi des disciples, puisque les actes des apôtres disent qu'ils étaient environ 120. Ainsi, par la Vierge Marie, l'Esprit Saint est descendu sur tous ceux qui étaient présents dans le Cénacle, et ils ont été transformés. Alors que peu de temps avant son ascension, notre Seigneur reprochait encore aux apôtres d'être des incrédules. Et sur le lieu même de l'ascension, les apôtres demandent encore à notre Seigneur: « Mais quand restituerez-vous le royaume d'Israël ?» Ces apôtres étaient encore aveuglés. Ils croyaient encore à la restitution du royaume d'Israël temporel. Ils n'avaient pas compris que le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ était un royaume universel, éternel, spirituel. Temporel, certes, mais par l'Esprit Saint. Et voici que, par la descente du Saint-Esprit, leurs yeux s'ouvrent. Ils prennent contact avec Dieu d'une manière mystérieuse, mais d'une manière profonde, d'une manière réelle. Et je pense que pour essayer de connaître mieux la psychologie de ceux qui étaient dans le Cénacle et qui se sont trouvés ainsi transformés par la descente du Saint-Esprit, on ne peut mieux faire que d'examiner, de penser aux fruits du Saint-Esprit. On juge l'arbre à ses fruits. On peut juger de l'Esprit Saint qu'ont reçu ses disciples et les apôtres par les fruits du Saint-Esprit. Et quels sont ces fruits du Saint-Esprit? Eh bien, saint Paul nous les énumère. Ils sont au nombre de 12. 12 fruits du Saint-Esprit. On peut les regrouper en quelque sorte en 3 groupes. Les premiers, c'est la charité, la joie, la paix. Charité, joie, paix. C'est déjà le ciel. Qu'y aura-t-il d'autre au ciel? La charité. La charité qui nous unira à Dieu pour l'éternité. La charité qui produira dans nos cœurs une joie ineffable. Et qui produira également une paix qui ne finira pas. Ainsi, les fruits que les disciples ont éprouvés au moment de la descente du Saint-Esprit sont déjà une participation à l'éternité. Ils se sont trouvés en quelque sorte surélevé par la grâce du Saint-Esprit, par cette grâce surnaturelle, à une connaissance de Dieu, un contact avec Dieu extraordinaire qu'ils n'avaient jamais éprouvé jusqu'alors. Ils se rendirent compte que Dieu était tout, qu'ils avaient tout reçu de Dieu et que toute leur vie devait être orientée vers Dieu. Pour eux, ce contact avec Dieu eut l'effet d'une donation définitive pour eux. Ils étaient définitivement acquis à Dieu, à l'éternité, à la Trinité Sainte, par la présence du Saint-Esprit en eux. Désormais, plus rien ne pourrait les détacher de Dieu. Rien. Et ce seront précisément l'expression des autres fruits du Saint-Esprit, car ils ne sont pas encore au ciel. S'ils déjà, ils ont une impression d'avoir approché Dieu d'une manière mystérieuse, d'une manière profonde, d'une manière extraordinaire, ils sont encore sur la terre. Et alors, quels seront les fruits du Saint-Esprit dans cette vie terrestre, dans ses contacts avec les événements quotidiens, avec les difficultés, les épreuves, les doutes, les hésitations, les angoisses? Eh bien, saint Paul énumère alors la patience, bénignité, bonté, longanimité. Voilà les fruits qui seront ceux, en définitive, de l'espérance, voyez-vous, les yeux fixés sur le ciel, les yeux fixés désormais sur Dieu, sur le bonheur éternel qu'ils attendent désormais avec un espoir profond. Te domine speravi non confondar in eternum. En vous, mon Dieu, j'ai placé mon espoir et nous ne serons pas confondus. C'est bien ce qu'ils devaient se dire. Et alors, désormais, toutes les choses de la terre leur apparaissaient sous un autre jour. Ils n'y étaient plus attachés. Et alors, dans les difficultés, dans les souffrances, dans les angoisses, c'était ces dispositions de patience, de bonté, de douceur, de longanimité. Et n'est-ce pas cela que l'on rencontre chez les vrais chrétiens, chez les vrais catholiques? Ce visage de douceur, de bonté, de patience, de longanimité dans les épreuves, dans les difficultés, dans les soucis quotidiens. Et puis, ils n'étaient pas nécessairement devenus des saints. Les tentations les guettaient encore. Tentations de l'orgueil humain, l'orgueil de l'intelligence, l'orgueil de la raison, qui se révolte contre la foi, contre cet aveuglement de la foi, contre cette obéissance que représente la foi, obéir à la révélation qui nous est donnée par Dieu. Notre esprit, notre intelligence doit se soumettre. Nous ne comprenons pas les mystères que le bon Dieu nous révèle, mais nous devons cependant accepter, adhérer à ces mystères de toute notre âme, de tout notre cœur. C'est une épreuve très dure pour notre intelligence, pour notre raison, une épreuve d'humilité. Et puis, il y a l'orgueil de la chair, cette chair qui veut toujours se révolter contre l'esprit, qui veut satisfaire ses désirs désordonnés, sa volupté, son intempérance. Alors, quels seront les fruits de l'Esprit Saint? devant cet orgueil, devant cette révolte qui est toujours, qui couve toujours dans nos âmes, qui couve toujours en nous, eh bien, ce seront justement la foi. La foi, la modestie. Je dirais que la foi et la modestie, vous voyez, s'unissent parfaitement. Modestie dans la raison, humilité de notre raison devant la foi, modestie. Modestie de nos intelligences. Nous sommes de petites intelligences, nous sommes au bas de l'échelle des esprits. Et si les anges sont soumis à l'intelligence de Dieu et à la vérité que Dieu leur enseigne, comment nous, pauvres humains que nous sommes, nous ne serions pas soumis, nous ne serions pas modestes devant Dieu qui nous révèle ses grandes vérités, ses grands mystères, mystère de la Trinité, mystère de l'incarnation, de la rédemption, mystère d'ailleurs dans la nature, mystère de la création. Nous sommes entourés de mystères. Eh bien, l'esprit doit se soumettre à la volonté de Dieu, à la vérité de Dieu. Voilà le fruit du Saint-Esprit en nous, la foi, la modestie. Et puis, la continence et la chasteté. Continence et chasteté, fruit du Saint-Esprit, pour modérer ces désirs désordonnés de la chair, qui veut se révolter contre l'esprit. Voyez comme Saint Paul décrivant les fruits de l'esprit nous donne une image admirable de ce que sont devenus en quelques instants ces disciples de notre Seigneur, ces apôtres. Sont devenus par l'effet de la descente du Saint-Esprit en eux, remplis des fruits du Saint-Esprit. Et alors le résultat pour eux, ce fut parler. Et chéperont loqui. Ils ont commencé à parler. Et parler de qui? De quoi? Mais leur cœur était rempli de Dieu. Ils avaient en quelque sorte touché Dieu. Ils avaient presque fait une expérience divine de la connaissance de Dieu, cette science de la charité dont parle Saint Paul. Scientia caritatis Christi. Cette expérience les avait soulevés. Tout le reste disparaissait, encore une fois, pour eux. Devant Dieu, ils ont prêché Dieu, ils ont parlé de Dieu, ils ont chanté Dieu. Cantantes, laudantes, ils n'ont pas pu faire autrement que de chanter la gloire du bon Dieu, les grandeurs de Dieu, et de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, de prêcher l'Évangile. Voilà ce que nous enseigne l'Évangile. Voilà ce que fut la Pentecôte. Et ce furent nos pères dans la foi. Et ce sont eux qui nous ont enseigné de recevoir aussi l'Esprit Saint. Ce sont eux qui ont été chargés de nous communiquer l'Esprit Saint, particulièrement par la grâce du baptême. Nous n'avons pas suffisamment confiance, je dirais, je pense, dans la grâce de notre baptême. Notre baptême a été notre Pentecôte. Ce n'est pas autre chose. Souvenez-vous, dans les Actes des Apôtres, il est bien dit que les disciples de notre Seigneur étaient baptisés du baptême de l'Esprit. Baptême de l'eau, mais baptême de l'Esprit, qui n'était plus que le baptême de l'eau. Il était aussi le baptême de l'Esprit. Et l'Esprit Saint, souvent, à l'occasion des baptêmes qui étaient donnés par les apôtres, descendait visiblement sur ceux qui avaient reçu le baptême, manifestant ainsi la présence du Saint-Esprit, descendant dans ses cœurs, de ses cœurs préparés pour le recevoir. Bien nous aussi, nous avons été associés en quelque sorte à ceux qui se sont trouvés dans le Cénacle par notre baptême, par la confirmation. Confirmation qui n'est que le complément de l'effusion du Saint-Esprit que nous avons reçu au baptême. Alors nous avons vraiment reçu l'Esprit Saint. Est-ce que nous en avons vraiment reçu les fruits? Examinons-nous. Est-ce que vraiment nous avons conscience d'avoir reçu les fruits du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons conscience vraiment d'être près de Dieu, d'avoir Dieu en nous, de connaître Dieu, de mesurer la charité de Dieu? Rappelons-nous le magnifique épître de Saint Paul que nous lisons si souvent à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur. L'épître aux Éphésiens, dans laquelle Saint Paul décrit la hauteur, la profondeur, l'immensité de la charité de Dieu. Est-ce que nous avons conscience de cette charité de Dieu envers nous? Est-ce que nous vivons vraiment près de Dieu? Et par conséquent, est-ce que nous partageons la paix et la joie de Dieu dès ici-bas, par la présence du Saint-Esprit en nous, par l'effusion du Saint-Esprit en nous? Est-ce que nous participons aussi à tous ces fruits qui nous sont donnés pour marcher vers notre éternité, au milieu de toutes les difficultés de ce monde, au milieu de toutes les tentations de ce monde corrompu, de tous les obstacles qui se présentent à notre vie chrétienne, à tous les attraits du péché? Est-ce que nous vivons vraiment de ces fruits du Saint-Esprit qui sont la patience, la bonté, la douceur, la magnanimité, la longanimité? Combien il est bon de se rappeler ces choses. Tous les jours, peut-être, nous avons à exercer ces vertus. Ou alors nous nous révoltons devant les événements qui nous entourent. Nous nous opposons à la volonté du bon Dieu. Nous souffrons, comme nous souffrons aujourd'hui, dans l'Église et par l'Église. Est-ce que nous sommes dans ces dispositions de patience, de douceur, de mansuétude vis-à-vis des épreuves que le bon Dieu permet que nous ayons, même par nos frères? Et puis, est-ce que nous réalisons vraiment dans notre vie cette humilité de l'intelligence? Redigere omnem intellectum in obsequium Christi. Voilà la devise que nous donne Saint Paul. Ramener tous les esprits à l'obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ, in obsequium Christi. Ces intelligences qui voudraient se révolter, cette raison qui s'est fait adorer au moment de la Révolution française, adorer la raison humaine, contre la volonté de Dieu, contre la foi, qui demande à cette raison de se plier et d'obéir et d'accepter la révélation et toutes ses conséquences, et tous les commandements de Dieu. L'homme se dresse dans son orgueil et il adore sa raison. Et est-ce que nous faisons aussi tout ce que nous pouvons pour que les fruits du Saint-Esprit, nous aidant à modérer les désirs de notre chair, qui elle aussi veut se révolter, qui elle aussi voudrait bien ne pas obéir aux commandements de Dieu? Est-ce que vraiment les fruits du Saint-Esprit agissent en nous pour vivre de la vertu de tempérance? Demandons aujourd'hui spécialement tous ces fruits au Esprit Saint, afin que nous vivions vraiment en catholique, en catholique. Est-ce qu'il y a eu une autre Pentecôte dans une autre religion? Je vous le demande. Est-ce qu'on n'a jamais entendu dire que l'Esprit Saint était descendu dans une autre religion que dans la religion catholique? Non, parce qu'il n'y a pas d'autre religion. Il n'y a qu'une religion, celle de Dieu, Il n'y a pas deux religions, il n'y en a qu'une. Celle que Dieu a fondée. Celle que Dieu nous demande d'avoir, la sienne. La religion de Dieu, la religion divine. Et cette religion divine, c'est la religion de la Pentecôte. C'est celle de l'Esprit Saint. C'est celle de l'Esprit qui nous est donné par le baptême et par les sacrements et qui rénove complètement notre âme, qui ressuscite nos âmes et les met en contact avec Dieu pour qu'elles soient un jour en contact avec lui pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre religion. C'est pourquoi, devant cet esprit que nous constatons depuis le Concile Vatican II, nous sommes obligés de nous poser la question, est-ce que cet esprit est vraiment conforme à l'esprit de la Pentecôte? Est-ce que les fruits du Saint-Esprit se reconnaissent dans cet esprit qui est issu de Vatican II? Eh bien, je pense que malheureusement, nous sommes obligés de constater que non. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Il n'y a pas de nouvelle Pentecôte. On voudrait nous faire croire qu'il y a une nouvelle Pentecôte, qu'il y a une deuxième naissance de l'Église. Il y a eu la naissance de l'Église à la Pentecôte, au temps des apôtres, et puis il y aurait maintenant, à Vatican II, une deuxième naissance de l'Église, une nouvelle Pentecôte. Il n'y a pas deux Pentecôtes. Il n'y a qu'une Pentecôte. À laquelle nous devons être fidèles jusqu'à la fin des temps, à laquelle devront être unis tous ceux qui seront baptisés, tous ceux qui recevront les sacrements, tous ceux qui seront confirmés, tous ceux qui recevront les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ, seront unis à cet esprit qui est descendu à la Pentecôte sur les apôtres. C'est le même esprit, la même fidélité, avec les mêmes fruits du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je dirais qu'on peut faire le discernement des esprits par les fruits du Saint-Esprit. Dans la mesure où l'on constate les fruits du Saint-Esprit dans une famille, dans une société, dans une personne, on peut dire que cette personne est vraiment le fruit de la Pentecôte du Saint-Esprit. Et elle a vraiment le Saint-Esprit en elle, tel que les apôtres l'ont reçu. Si au contraire nous ne trouvons pas ces fruits du Saint-Esprit, mais le contraire des fruits du Saint-Esprit, alors nous ne pouvons pas croire qu'il s'agisse vraiment du même esprit, de l'esprit de la Pentecôte. Et regardez un tout petit regard sur les derniers fruits du Saint-Esprit. Je vous ai dit que les derniers fruits du Saint-Esprit, tels qu'ils sont donnés par Saint Paul, ce n'est pas moi qui les enseigne, c'est Saint Paul lui-même. La foi, fides, modestia, continentia, castitas, la foi, la modestie, la continence, la chasteté. Dites-moi, si depuis le Concile Vatican II, ces fruits du Saint-Esprit sont plus abondants dans l'Église qu'avant, la foi. Constatons nous-mêmes que la foi disparaît. La modestie. Nous constatons au contraire l'orgueil des hommes plus fort que jamais. L'intelligence des hommes qui se dresse plus que jamais contre Dieu avec ses droits de l'homme. Cette révolte de l'homme contre les lois de Dieu. Dites-moi si la continence, si la chasteté est mieux appliquée et plus étendue depuis le Concile Vatican II qu'avant le Concile Vatican II. Et vous aurez répondu. Vous-même, par vous-même. Et ceci est très grave et très important. Nous voulons garder l'Esprit de Dieu. Nous voulons garder l'Esprit de la Pentecôte. Nous ne voulons pas trahir l'Esprit de la Pentecôte, l'Esprit que les saints apôtres ont reçu. Nous voulons le garder tel que nous l'avons reçu au baptême, tel que nous l'avons reçu au sacrement de confirmation, comme je vais le donner cet après-midi aux enfants qui vont venir ici. Et que je le donne partout. Cet esprit est un esprit de foi. un esprit de modestie, d'humilité devant le bon Dieu, de dépendance de Dieu, voyez-vous, dépendance de Dieu. Cet esprit nous découvre Dieu, et découvrant Dieu, nous apercevons que nous ne sommes rien. C'est ce que dit saint Paul. Quid habes quod non recepisti? Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu? Et si vous avez été reçu, pourquoi vous glorifiez-vous de ce que vous n'avez, de ce que vous avez? Puisque nous avons tout reçu. Et il ajoute encore, si quelqu'un se croit quelque chose, comme il n'est rien, si quis pustat esse aliquid, cum nihil sit, comme il n'est rien, il se fait illusion. Et oui. Nous ne sommes rien devant le bon Dieu. Nous lui devons tout, 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 tout. Et plus nous approchons de Dieu, et plus nous le comprenons. Alors, notre esprit s'incline devant le bon Dieu, se sent dans la dépendance de Dieu, dépendance totale de Dieu. Or, actuellement, c'est le contraire que nous constatons dans la société, même dans la société chrétienne. Cet orgueil de l'homme, l'homme partout, l'homme qui se fait un Dieu, la conscience de l'homme devant laquelle personne ne peut s'insurger, devant laquelle il n'y a pas de loi, il n'y a pas de vérité, chacun se fait sa vérité, chacun sa religion, chacun sa pensée, chacun sa voie morale. Touchez pas à la conscience de l'homme. Mais qu'est-ce que c'est que la conscience de l'homme, sinon un miroir, le miroir de Dieu? Est-ce que Dieu ne serait plus l'objet de la conscience, l'objet du miroir qu'est la conscience? Et par conséquent, l'obéissance à la vérité qu'est Dieu, l'obéissance à la loi de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. C'est là le problème de notre bonheur éternel, de notre vie éternelle. Alors soyons fermes dans notre foi. Cultivons les fruits du Saint-Esprit en nous pour demeurer catholiques, pour demeurer chrétiens, pour demeurer ceux qui sont unis à Dieu, ceux qui sont vraiment membre de la véritable religion, de la religion de Dieu. Nous le voulons, vous le voulez. Vous le voulez pour vos enfants, vous le voulez pour vos parents, pour vos amis. Et c'est cela qui a été justement le résultat de cette descente du Saint-Esprit sur les apôtres et de chez Péron. Et ils ont parlé et on ne les a plus empêchés. Ils n'ont plus arrêté de parler jusqu'à la fin de leur jour, jusqu'à leur martyre. Leur martyre même était un témoignage de leur foi. C'était encore leur dernière parole. Le sang qu'ils versaient était leur dernière parole pour confesser la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. On a voulu les empêcher. On les a enfermés, on les a mis en prison et on leur a dit, ne péchez plus notre Seigneur Jésus-Christ. Faites tout ce que vous voulez, mais ne parlez plus de Jésus. Taisez-vous sur le nom de Jésus. Ils ont dit, non possumus non loqui. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous continuerons à parler. Ils ont continué à parler jusqu'à leur mort. Voilà la religion catholique. Voilà les effets de l'Esprit Saint. Voilà ce que nous devons être. Ce que nous devons continuer ici-bas. Être les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être autre chose. Et nous ne voulons pas être autre chose. C'est pourquoi nous n'acceptons pas ce nouvel esprit, cette nouvelle Pentecôte, cette nouvelle attitude qui nous font devenir des protestants. Or, le protestantisme, c'est précisément une révolte de l'homme contre Dieu, qui veut placer sa liberté, liberté de l'homme, de juger toute chose, en dehors de l'Église, refusant l'Église. C'est ça le protestantisme. Et maintenant, cet esprit nouveau nous conduit au protestantisme, nous fait vivre selon l'esprit du protestantisme. Nous refusons cet esprit. Nous ne voulons pas agir, ni penser, ni être des protestants comme des protestants. Nous devons rester catholiques. Voilà ce que cette fête de Pentecôte doit nous rappeler et nous aider à vivre en union avec la Très Sainte Vierge Marie et par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.